En direct sur le studio Kalangou. Bienvenue, le point sur l'actualité nationale, c'est tout de suite. Il est 18h, voici nos titres. La France victime une fois de plus d'un attentat terroriste. Cette fois, c'est Nice, une ville dans le sud de la France qui a été frappée. Le bilan est lourd, plus de 80 morts et des centaines de blessés. On en parle dans un instant. Le syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Niger menace d'aller en grève. Ce matin, un préavis de grève de 48 heures a été déposé par le syndicat. Les raisons de cet arrêt de travail avec le secrétaire général du SINFAMED, Dr Maman Sani. 8000 étudiants non boursiers des universités publiques attendent encore le paiement de l'aide sociale. Une première vague avait déjà reçu leur part lors du début de paiement qui a eu lieu le 1er juillet dernier. Vous entendrez le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Dans la partie magazine de ce soir, nous irons à Zinder pour parler des initiatives prises par les autorités communales pour prévenir les inondations. Messieurs, dames, bonsoir. Plus de 80 morts, des centaines de blessés. C'est le bilan de l'attentat terroriste commis hier à Nice, dans le sud de la France. C'est vers 23h en ce 14 juillet, jour de fête nationale en France, qu'un camion blanc a foncé à pleine vitesse dans la foule. Une foule qui rassemblait des milliers de personnes venues assister au traditionnel feu d'artifice. Que pensent les Nigériens de cette tragédie? Omar Rama en a interrogé quelques-uns dans les rues de Niamey.
On dit la France, là où il y a tellement de sécurité, ou bien plus précisément de l'air lieu, là où les gens vont aller se bronzer, aller se sentir un peu à l'aise et se retrouver. Et on se trouve déjà des accidents. Ça, c'est un accident grave.
Et moi, ce que je retiens d'abord, c'est un acte déplorable, parce que tout ce qui se passe dans le monde qui arrive à des pertes de vies humaines, nous condamnons ça fermement à notre avis. Mais c'est lié à beaucoup de choses, à la politique stratégique, à la géopolitique elle-même de la France en Afrique et un peu partout dans le monde par rapport même à beaucoup de choses qui se sont passées.
Et la ville de la France a été attaquée, comme vous venez de le préciser, que cette ville a des dispositifs sécuritaires très efficaces dans le domaine de la surveillance et que ça s'avère aujourd'hui que cette ville a été attaquée, qui a fait 89 victimes. Ils ne sont plus avec nous aujourd'hui. En tant qu'imam, pour un premier début, je ne peux que présenter mes condoléances à la famille de ces victimes et au peuple français, parce qu'ils ont perdu leurs compatriotes.
Propos recueillis par Omar Hamma. Pourquoi une telle action un 14 juillet, jour de la fête nationale française? Écoutez l'analyse du politologue nigérien, le professeur Yahya. Pour lui, le choix de cette date n'est certainement pas dû au hasard. Il explique pourquoi.
Je pense que cet attentat a été suffisamment planifié. Donc l'endroit qui est choisi, la promenade des Anglais, un endroit suffisamment historique. L'utilisation, donc le mode opératoire, l'utilisation d'un camion a été mûrement réfléchi. Et je pense qu'il y a tout sauf du hasard dans cet attentat terroriste. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que les services de renseignement qui sont censés prévenir, agir en amont, n'ont rien vu venir. Ce qui fait que le terroriste a toujours un temps d'avance sur tous les services, en particulier ceux qui sont en alerte chargés du renseignement intérieur ou extérieur.
Vous venez d'entendre le professeur Yahya, politologue nigérien. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a quitté Niamey ce matin pour Kigali au Rwanda, où se tient le 27e sommet de l'Union africaine. Les travaux sont ouverts depuis le 10 juillet et se poursuivent jusqu'au 18. Cette année, le sommet a pour thème 2016, année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. La succession à la tête de la Commission africaine, la lutte contre le terrorisme, la crise burundaise et la mise en place d'un passeport africain sont entre autres les principaux sujets qui seront débattus par les chefs d'État et de gouvernement africains. On se souvient que le ministère de la fonction publique avait en avril dernier décidé par arrêté de licencier 19 médecins nouvellement affectés. Le même ministère vient, c'était le 8 juillet, par arrêté de licencier 18 autres médecins au motif que ceux-ci auraient refusé de rejoindre leur premier poste d'affectation. Ce matin, le syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Niger, le SINFAMED, très en pointe depuis le début de cette affaire pour la défense des médecins licenciés, vient de déposer un préavis de grève de 48 heures. Selon le secrétaire général du SINFAMED, Dr Mansani, la procédure de licenciement de ces médecins, ils sont désormais au nombre de 37, n'a pas été respectée.
Nous avons exigé à ce que cet arrêté ne soit pas annulé parce que tout celui qui n'a pas répondu à son poste d'affectation, nous ne pouvons pas le couvrir. Mais du moins, ceux qui ont répondu après le communiqué du ministère de la Santé doivent effectivement être réhabilités. C'est dit à la rigueur, c'est un acharnement que ce ministre a à l'égard des médecins. Et effectivement, le ministère de la Fonction publique ne pouvait prendre une décision de licencier un agent de l'État qui est sur une saisine effectivement de son ministère utilisateur. Les DRSP n'ont pas envoyé parce qu'on a touché les DRSP. Ils disent qu'ils sont surpris parce que c'est les responsables effectivement de ces camarades, c'est eux qui gèrent ces camarades dans les régions. Nous sommes obligés parce que la grève nous a été imposée par le ministère de la Santé. Sinon, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous portons en grève. La responsabilité incombe entièrement au ministère de la Santé pour ce qui est cette situation.
Le secrétaire général du SINFAMED, Dr Mamansani, joint au téléphone le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique, a déclaré que son ministère n'est pas encore en possession de l'arrêté, raison pour laquelle il ne peut se prononcer sur la situation. Un mouvement de mauvaise humeur des enseignants contractuels de Dosso. Hier, ils ont brûlé des pneus et bloqué ainsi la circulation. La police a éteint le feu et a dégagé les pneus sans s'en prendre aux manifestants. Motif de ce mouvement d'humeur, le non-paiement de 3 mois de pécule. Nous avons tenté de joindre le syndicat des enseignants contractuels sans succès. Le paiement de l'aide sociale 2016 attribué aux étudiants non boursiers des universités publiques qui a commencé le 1er juillet dernier a été suspendu à cause des problèmes de trésorerie que rencontre l'État. Sur plus de 15 000 étudiants bénéficiaires, 8 000 attendent encore le paiement. Sur ce sujet, l'opinion d'Ouseni Sambo, le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Il y a au moins une semaine de cela que cette SOSL a été suspendue son paiement pour manque de moyens financiers. Aujourd'hui, on a plus de 8 000 qui n'ont pas reçu la SOSL, parmi les 15 000 quelque chose, c'est l'étendue du territoire national. Donc, je dis que l'État a démissionné vis-à-vis de ses responsabilités parce que s'il y a faute de moyens financiers, ce n'est pas la faute des étudiants. Si ils ont failli vis-à-vis de leur mission, s'ils ont créé les conditions d'endettement et de ceux qui sont suivis de notre pays, ce n'est pas la faute des étudiants. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils respectent les engagements qu'ils ont vis-à-vis de nous. Si toutes ces questions n'ont pas été réglées d'ici, qu'ils considèrent que l'année prochaine au Niger, il n'y aura pas rentrée d'académie parce que nous, les scolaires, nous n'allons pas accepter que nos droits puissent être bafouillés. Ça, je vous le dis, ceux qui pensent que non, il y a un esprit laxiste de notre part, qu'elle se détrompe. Nous sommes en train de nous battre corps et âme pour créer une pression, créer les conditions d'amélioration des conditions de vie et des scolaires partout où ils peuvent se trouver au monde.
Propos recueillis par Tanaïm Foudé Ahmed. Beaucoup de défaillances dans l'organisation du bac session 2016. En plus d'un sujet hors programme au niveau de l'épreuve de chimie pour la série D, contre toute attente et contrairement aux années précédentes, cette année, les candidats de la même série n'ont pas bénéficié de ce droit de choisir les épreuves en SVT. Selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, Cheibou Dambaji, ces désagréments auront inévitablement de graves conséquences sur les résultats des examens.
Il faut déplorer le choix de certaines épreuves. Alors, au niveau des sciences physiques, par exemple, les séries D, je tiens une terminale D, on a relevé qu'il y a une partie d'un exercice qui est apporté sur des parties qui sont hors programme, que nous n'enseignons pas au niveau des lycées. Pour ceux qui connaissent bien la chose, c'est l'exercice numéro 2 de chimie qui est apporté sur une partie qui n'est pas du tout enseignée parce que ce n'est pas au programme. Pour bien comprendre, nous enseignons les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre sur la base d'un programme précis, un référentiel précis. Or, il se trouve que la partie-là ne figure nulle part dans le programme. Le deuxième couac, c'est au niveau de l'épreuve de SVT, sciences de la vie et de la terre. Alors, au terme de l'arrêté qui définit les différentes matières, l'épreuve de SVT comporte 2 sujets. Donc, c'est bien un arrêté. Alors, contre toute attente, les élèves sont partis en salle et ils ont trouvé un seul sujet. Même si sur l'entête, on a précisé qu'ils ont le choix. Ils n'ont pas eu de choix, ils ont traité un seul sujet. Donc voilà ce à quoi nous avons assisté.
Propos recueillis par Mokhtar Hamado. Plusieurs personnes appartenant à des différentes couches sociales professionnelles, dont des enseignants, ont été interpellées par la police judiciaire pour tentative de fraude aux examens du baccalauréat session 2016 qui viennent de s'achever. La convergence d'actions unitaires des syndicats de l'éducation déplore la récurrence de ce phénomène qui porte atteinte à la crédibilité des diplômes scolaires au Niger. Issoufou Razika, co-coordonnateur de Cause Niger, au micro de Asmana China.
La question des fraudes est certaine. Qu'il y a eu fraude en dépit de tout ce qui avait été annoncé comme arsenal pour faire un bac propre. C'est déplorable. C'est déplorable, surtout lorsque des enseignants sont incriminés. Pour éradiquer cette fraude, il va falloir que l'État lui-même prenne des mesures. Des mesures immédiates. Il s'agira de faire en sorte que le système éducatif marche et qu'il donne aux enfants-là un niveau qui va leur permettre d'être confiants par rapport aux épreuves. Qu'il crée les conditions pour que l'enseignement soit un enseignement de qualité, en mettant les enseignants dans les conditions. Cela étant fait, beaucoup d'élèves vont compter sur leur mérite. La seconde chose, c'est la sanction. Lorsqu'on détecte des cas de fraude et des coupables, il va falloir qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour réprimer les faussaires de manière pédagogique. Et la prochaine fois, même si on jette un faux diplôme sur la route. En tout cas, un enseignant ou un élève ou un parent n'osera pas se couper pour le ramasser. Mais quand on va aller de l'impunité ou de la justice partielle, c'est qu'il y aura toujours des fraudes. Or, on sait qu'il n'y aura jamais de corruption sans corrompu. Et peut-être même, il y a un troisième larron, c'est le rabatteur.
Issoufou Arzika, co-coordonnateur de Cause Niger.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou
à Agadez.
Sur la radio Nomade FM.
101.9 FM
à Tillabéri.
Sur la radio Tébouassi.
97.5 FM
à Maradi.
Sur la radio Garkwa.
107 FM
à Filengué.
Sur la radio Mouria Talaka.
95.1 FM
à Difa.
Sur la radio Enfagne.
100 FM.
Studio Kalangou. Studio Kalangou.
18h passées de 12 minutes, l'heure de notre magazine. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la ville de Zinder ont occasionné une série d'inondations dans certains quartiers de la ville. Selon le secrétaire général, la mairie centrale a pris toutes les mesures pour contrecarrer les inondations. À titre illustratif, des opérations de curage, des caniveaux et de ramassage des déchets ménagers sont en cours dans l'ensemble de la ville de Zinder. Aboubakar Maman, secrétaire général de la ville de Zinder, interpelle la population à plus de responsabilité pour un changement de comportement.
Déjà, les caniveaux sont en train d'être curés. Nous sommes là en train de travailler nuit et jour et les gens peuvent observer. Mais seulement la ville de Zinder, elle est vaste. Il faut que la population aussi comprenne que ce n'est pas le rôle seulement du maire, c'est le rôle de tout un chacun. Ça veut dire des endroits où les caniveaux ont été curés, où les ordures ont été ramassées. Il ne faut plus remettre les ordures ménagères. Si je prends le cas des caniveaux, chaque fois les caniveaux sont curés avant la période de pluie. Mais qu'est-ce qu'on constate quand on cure les caniveaux? Vous revenez, vous retrouvez les mêmes choses que vous avez enlevées. Mais les caniveaux, ce ne sont pas des dépotoirs par définition. C'est là où les eaux de pluie vont s'évacuer de la ville. Ça veut dire qu'il faut les laisser librement. En les obstruant, en mettant des obstacles qui obstruent effectivement que l'eau ne coule pas, effectivement c'est ce qui cause effectivement ce que vous venez de dire. Dieu merci, il n'y a pas eu d'inondation d'une façon générale, mais la première pluie a alerté et surtout qu'on était alerté avant. C'est pour ça que le maire a mis les gros moyens. Le curage, c'est de l'argent. Cet argent où il le trouve, c'est deux fois des impôts rétrocédés. Et ceux qui ont en charge de contribuer pour qu'on fasse ces travaux, je pense que les gens ne contribuent pas. Parce que c'est quoi? C'est avec la taxe municipale, c'est avec la taxe de voirie qu'on devrait faire ce travail. Évidemment, la santé de la population commence effectivement par les évacuations des ordures ménagères, surtout en période de pluie. Il ne faut pas que ces ordures décomposent et ça va être l'origine des maladies hydriques, notamment des maladies parasitaires, le palu, la typhoïde et autres quoi. Il est en train de curer et le montant mis, c'est énorme. C'est plus d'une dizaine de millions. Les gens, Vous avez parlé Tapkins ou quoi? Les gens doivent comprendre que c'est un bassin de réception des eaux. Nous avons trouvé ça. C'est un bassin de réception, c'est dans l'architecture de la ville. Et ce bassin de réception, c'est de là que l'eau rentre dans les caniveaux pour évacuer ailleurs. Mais la population, d'une façon délibérée, à la recherche des terrains, des trucs comme ça, les gens viennent acheter des ordures pour remplir. Et c'est sur les déchets que les gens sont en train de construire. Dans ce cas, les gens doivent avoir à l'idée l'intérêt général. Parce que le jour qu'il n'y aura pas Tapkins ou quoi, où l'eau va couler librement dans les caniveaux, c'est-à-dire que toute la partie de, comment on appelle, Hilintambari, et tout ce quartier-là, va être inondé.
Propos recueillis par Ali Keïta. C'est la fin de ce journal. La suite, comme tous les vendredis, c'est le forum de la presse de Studio Kalangou. Il est présenté par Alassane Kouzima Madou.